marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi. Car sans ennemi, la guerre est ridicule.
Sun Tzu, l'art de la guerre.
Sun Tzu dit que l'art du général, d'abord, la première tâche du général, c'est de se rendre invincible. Ça prend un peu un contre-pied de ce que l'on a l'habitude de penser, de manière spontanée en Occident, à savoir que si je dois me battre, premièrement, il faut que j'ai des armes. Si une entreprise doit se lancer sur un marché, d'abord les armes. Certes, c'est utile. Mais ce que Sun Tzu dit, c'est que le plus important, c'est créer la confiance à l'intérieur de l'entreprise. La vertu est intéressante. La vertu, qu'est-ce que c'est? C'est comprendre les changements. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, la vision chinoise du monde, c'est qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est le changement.
C'était en exergue Pierre Fayard sur YouTube. Dans les formations en management, la référence à Sun Tzu est un pont aux ânes. Le dénommé Sun Tzu dit le rappeur Abraxas. C'est un général chinois qui a rédigé un manuel ancestral. En effet, il date peut-être du 4e siècle avant notre ère. Un manuel ancestral, donc, qui est appliqué par les patrons d'aujourd'hui. Remporter les conflits avec mental et stratégie, voilà la marque d'un vrai maître de guerre. Et impérial, Abraxas conclut « Je suis du même avis que ce livre de chevet des puissants ». On est content pour lui. L'idéologie du discours économique dominant ne cessant d'utiliser la terminologie guerrière, il était fatal qu'un manuel d'art de la guerre devienne la chose des apôtres de l'entreprise. Depuis une vingtaine d'années, en France, l'art de la guerre est une valeur en hausse. Il est vrai qu'il présente l'avantage d'être très court. Sur la toile s'entrecroisent ses versets et ses citations. Sur le marché éditorial circulent près d'une vingtaine de traductions, inégales, bancales parfois. Chez nous et dans les autres pays d'Europe, le texte de Sun Tzu finit même par pénétrer les milieux militaires auxquels on aurait pu penser qu'il était destiné par priorité. Il est ainsi cité, maintenant une quinzaine de fois, dans le traité de stratégie de l'école de guerre qui vient de paraître. Mais dans le même traité, l'officier prussien Clausewitz, infiniment plus jeune puisqu'il est contemporain de Napoléon, demeure trois fois plus présent. Clausewitz avait bénéficié, après la défaite de 1870, d'une crise allemande de la pensée française. Sun Tzu, aujourd'hui, tire parti de la crise chinoise de la conscience contemporaine. Il rassure nos contemporains aussi quand il dit que tout peut se jouer avant le choc. On se satisfait donc vite de le présenter comme un professeur de ruse, de stratagèmes et autres attrapes. Et si aujourd'hui, on essayait de lui restituer sa profondeur historique, il vient de l'époque des royaumes combattants, quand émergeaient aussi confucianisme et taoïsme, et avant d'être mis au confluent du management et du rap, il se tenait au carrefour de la littérature, de la politique et, osons le dire, de la sagesse.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Yann Couder, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors on va dire rapidement une fois, vous êtes officier. C'est la preuve d'ailleurs que dans les milieux militaires, Sun Tzu commence à pénétrer. La définition d'un militaire, est-ce qu'elle est issue de Sun Tzu? La meilleure qu'on puisse trouver, c'est celui qui veut éviter la guerre, non? Parce qu'il la connaît, il sait ce que c'est.
Alors oui, le militaire sait que la guerre est quelque chose de compliqué, n'est pas forcément une belle chose. Néanmoins, c'est pas au militaire d'éviter la guerre. C'est le militaire est aux ordres du politique et c'est le pouvoir politique qui nous dit quoi faire. Et le militaire a une particularité, c'est qu'il sait faire la guerre.
Affirmatif, Yann Couder. Mais alors, maintenant que ceci est dit, vous allez nous dire pourquoi vous avez une marotte pour Sun Tzu depuis une bonne dizaine d'années. Alors vous tenez un site, c'est le premier site français sur le sujet depuis 2011. Vous avez publié Sun Tzu en France. Sun Tzu, qui suis-je?
Alors effectivement, ma passion pour Sun Tzu a démarré il y a une petite dizaine d'années, même si je l'avais lu au tout début de mes études militaires à Saint-Cyr, comme la plupart de mes collègues. Mais c'est un tropisme pour l'Asie qui fait que je me suis intéressé à Sun Tzu et un peu plus en profondeur peut-être que mes camarades. Et là, j'ai découvert une profondeur qui était, selon moi, encore inexplorée en France. Hein, et donc, je poursuis toujours mes recherches. Et au fil des articles et des ouvrages publiés, ben, petit à petit, l'expertise augmente.
Il faut plus d'une vie pour découvrir un paysage chinois, nous disait il y a quelque temps Patrice Fava. Bon, il y a encore beaucoup de travail devant vous. Surtout que la connaissance de Sun Tzu avance. Alors, il y a des biographies largement imaginaires, il y a des visites touristiques organisées dans la supposée maison de Sun Tzu. Vous publiez dans vos livres des photos, des statues de Sun Tzu. Mais plaçons-nous, disons, dans les années 1970, avant même que vous l'ayez lu. On hésitait. C'est qui? Est-ce que c'est un seul personnage? Est-ce que cet art de la guerre, c'est un seul livre? Est-ce que ce sont deux livres distincts, d'époques différentes?
Alors déjà, au tout début des années 70, faut dire, il n'y avait quasiment pas de recherche sur Sun Tzu, puisque le sujet était clos. Assez curieusement, ça n'intéressait pas trop la sinologie, et même la sinologie française, qui était une des meilleures au monde. Et donc, à cette époque-là, on savait qu'il y avait des doutes sur la datation chinoise officielle de Sun Tzu, qu'il attribuait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Les travaux historiques le ramenaient plutôt vers le 4e siècle. Mais même le traité en lui-même, sa date de composition était incertaine, puisque le plus ancien que nous possédions ne datait que du 11e siècle. Donc là, je parle bien au début des années 70.
Et puis, on disait, il y a un autre texte dont on n'a plus trace, mais dont on sait qu'il a existé, qui est moins ancien.
Alors, effectivement, je pense que vous faites référence à Sun Bin, qui était un personnage qui était évoqué dans des anciens textes chinois. On disait que Sun Bin était un descendant de Sun Tzu et qu'il avait écrit aussi un texte qui portait le même nom, relatif à la guerre. Sauf que on n'avait plus aucune trace de ce texte. Il avait été perdu sans doute très très tôt. On n'en avait pas trace dans les bibliothèques impériales, dans les catalogues, dans les recensements des catalogues.
Jusqu'à ce que, instant important, un notable ayant eu la bonne idée vers 130 avant notre ère de se faire enterrer avec ses livres, jusqu'à ce que...
Le 10 avril 1972, au mont Insué, au sud-est de Ligny, province du Shandong, les travaux de construction du bâtiment du bureau de la santé de cette ville battent leur plein. Avec la progression des terrassements, une tombe de la dynastie des Han de l'Ouest, datant d'il y a 2000 ans, est mise au jour. Le cercueil de la tombe est enseveli dans le sable et le limon. La plupart des objets funéraires, adhérant les uns aux autres, sont à peine perceptibles à l'œil nu. À ce moment-là, Hu Diolong, travailleur au musée de la province du Shandong, assiste aux fouilles de la tombe. Il fait, avec ses homologues, une découverte surprenante.
Des lattes de bambou, sur certaines d'entre elles, le texte de Sun Bin, qu'on croyait perdu, le texte le plus jeune, donc il existe, il est bien distinct de l'art de la guerre. Et alors cet art de la guerre, ça tient en combien de lattes de bambou ?
Alors là, en fait, on en avait retrouvé assez peu. Hein. C'était de mémoire 55 lattes de bambou qui avaient été retrouvées. Mais c'est exactement ce que vous disiez en introduction. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a une actualité Sun Tzu. Il y a des recherches archéologiques qui font, au cours de ces dernières décennies, progresser la connaissance qu'on a de ce personnage. Le texte qui a été retrouvé de Sun Bin, donc ça a été le tout premier. On n'en avait jamais d'autres, donc ça prouve bien que le personnage a existé. Et surtout, ce qui nous restait de son traité a montré qu'il est effectivement antérieur de quelques décennies, probablement peut-être un siècle. Il était un peu moins profond. Il n'a pas révolutionné la pensée chinoise, mais en attendant, il a révolutionné les connaissances historiques sur le personnage.
Alors, Sun Tzu, conseiller général d'un des royaumes combattants. Alors, il faut qu'on situe cette époque. L'empire Zhou s'est dissous et il y a des unités politiques finissent par n'être que sept, avec quelques sept élites, qui se disputent l'essentiel du territoire chinois. Jean Lévy, qui est, selon vous, le meilleur traducteur de Sun Tzu.
D'abord, on vivait dans une époque de guerre permanente, et où 7 ou 8 grandes entités étatiques s'opposaient, et les armées alignaient 300, 400 000, 1 million d'hommes parfois. Naturellement, les historiens ont essayé de minimiser les choses et de dire que les chiffres étaient gonflés et que ça ne correspondait pas à la réalité. Mais malgré tout, c'est tout de même considérable. C'est des guerres de paysans, c'est des guerres de fantassins où les gens sont envoyés finalement au massacre. C'est-à-dire, la guerre, c'est tout de même c'est le fléau des nations. Il faut bien concevoir que la guerre, à l'époque de Sun Tzu, était véritablement quelque chose de monstrueux. Finalement, ça ruinait complètement l'économie des puissances qui s'opposaient.
Donc les royaumes se portent les uns contre les autres. Quand ils s'allient les uns avec les autres, c'est pour rompre les alliances et fondre sur l'allié d'hier. Et ce sont des véritables armées de conscription qui sont mises en mouvement, et non pas comme à l'époque antécédente, des cavaliers d'élite sur leur char, des héros rares. Non, ce sont les guerres de masse.
Oui, ça aura vraiment une conséquence sur la pensée de Sun Tzu. Comme vous l'évoquez, la période précédente, qui s'appelait la période des printemps et des automnes, et qui se termine, alors les dates fluctuent, mais on peut la dater à moins 476, elle était plutôt une période, toute proportion gardée, de guerre en dentelle, où des chars de nobles s'affrontaient entre eux, et c'était plutôt donc des petits combats privés. Et avec la période des royaumes combattants, on arrive à des affrontements massifs qui peuvent, comme le soulignait Jean Lévy, qui font s'affronter des centaines de milliers de personnes, qui font des centaines de milliers de victimes, de véritables boucheries, qui nécessitent d'avoir toujours plus d'hommes à aligner sur le terrain, donc de la conscription. Et cette conscription, qui est une idée nouvelle en fait au sein de la Chine, aura des conséquences directes sur le contenu du traité, puisque la question que va se poser Sun Tzu, c'est comment faire avec des hommes qui n'y connaissent rien au maniement des armes, qui sont des paysans, comment faire pour vaincre un adversaire qui est dans une situation identique, des gens qui n'y connaissent rien. Et lui va développer toute une théorie sur la position, le fait de pouvoir utiliser non pas les gens pour les guerriers qu'ils pourraient être ou qu'on pourrait les former, mais vraiment, si on les met sur une montagne, ils seront plus en force que s'ils sont dans une vallée, et ainsi de suite. La position sera extrêmement importante et découle de cette période des royaumes combattants.
Mais Sun Tzu, il est aussi mu par l'idée peut-être d'éviter ce rapport de force et de gagner la victoire sans avoir besoin d'en user. Alors, je voudrais que vous nous fassiez le rapport, ils ne sont pas vraiment contemporains, mais avec Confucius d'abord, puis avec celui qu'on appelle Lao Tzu, le fondateur du taoïsme. Confucius a la réputation, à tort ou à raison, d'être sur des comportements de paix, d'évitement de la guerre.
Tout à fait. Et paradoxalement, ça créera un grand tort à Sun Tzu pour sa postérité. Puisque à l'issue de la période des royaumes combattants, cette période se termine en moins 221 avec l'état de Qin qui écrase ses rivaux et qui unifie donc l'empire, le tout premier empire chinois. Et deux grands courants de pensée émergent. Le premier, c'est de la dynastie régnante, donc ce sera le légisme et surtout le confucianisme. Et le confucianisme, comme vous le dites bien, est opposé à la guerre. Ce qui fait que ça discréditera tous les penseurs militaires et tous les écrits précédents, et principalement Sun Tzu, qui va devenir pendant plusieurs siècles le seul représentant, un des meilleurs représentants de la pensée stratégique chinoise, puisqu'après lui, plus personne ne réfléchit parce que ce n'était pas bien.
Mais le taoïsme et Sun Tzu, en revanche, sont tout à fait en accord dans beaucoup de domaines. Chaque action doit être adaptée aux circonstances du temps. Qui joue de la musique d'hiver en été peut déclencher une chute de neige. Ça, c'est une définition parmi d'autres du taoïsme. Et il y a quelque chose du taoïsme chez Sun Tzu.
Alors, A contrario du confucianisme, oui, le Sun Tzu est très empreint de taoïsme. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les deux hommes se sont rencontrés, Lao Tzu et Sun Tzu, là, ça serait de la fable.
Surtout que Lao Tzu, oui.
Oui, l'existence est assez hypothétique. Mais la pensée a beaucoup de points communs. Si vous prenez dans le Tao Te King des citations comme « on vainc l'ennemi sans le rencontrer », où le fort et le dur ont toujours le dessous, le souple et le faible, le dessus, c'est clairement des pensées similaires à celles de Sun Tzu. Et donc, oui, le Sun Tzu est très empreint de taoïsme.
Alors, exemple, nous allons entendre, en écoutant la chute d'eau par l'orchestre chinois de Taipei, je suis désolé, Taipei, oui, bon, et Raphaël Enthoven, lisant quelques passages bien connus sur l'eau de Sun Tzu.
Il en doit être des troupes à peu près comme d'une eau courante. De même que l'eau qui coule évite les hauteurs et se hâte vers le pays plat, de même une armée évite la force et frappe la faiblesse. Si la source est élevée, la rivière ou le ruisseau coule rapidement. Si la source est presque de niveau, on s'aperçoit à peine de quelques mouvements. S'il se trouve quelque vide, l'eau le remplit d'elle-même dès qu'elle trouve la moindre issue qui la favorise. S'il y a des endroits trop pleins, l'eau cherche naturellement à se décharger ailleurs. Pour vous, si en parcourant les rangs de votre armée, vous voyez qu'il y a du vide, il faut le remplir. Si vous trouvez du surabondant, il faut le diminuer. Si vous apercevez du trop haut, il faut l'abaisser. S'il y a du trop bas, il faut le relever. L'eau, dans son cours, suit la situation du terrain dans lequel elle coule. De même, votre armée doit s'adapter au terrain sur lequel elle se meut.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est la suite de notre série d'émissions consacrées au thème de la guerre. Et nous sommes avec Yann Couder. Alors vous recommandez la traduction de Jean Lévy. On entendait Raphaël Enthoven lire celle du Père Amiot, 1772, Jean Lévy 2000. La forme d'une armée est identique à l'eau, une armée n'a pas de dispositif rigide, pas plus que l'eau n'a de forme fixe.
Cette image de l'eau, qui est aussi empreinte de taoïsme, est très intéressante parce qu'elle est assez différente de la façon dont les armées occidentales opèrent. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand vous à l'instar de l'eau du ruisseau qui va s'écouler le long de la montagne, quand vous avez un obstacle, vous allez chercher à le contourner. Quand vous avez un petit trou, vous allez le remplir et puis après vous allez continuer votre route. Et au final, que font les armées occidentales aujourd'hui ? Elles sont plutôt dans une manœuvre un peu plus directe, avec un plan qui est bien établi, et on va tout faire pour conduire cette action-là. Il y a des gens qui sont responsables au sein des états-majors, des cellules conduites, de ramener le plan dans la ligne droite qui avait été prévue, si jamais on s'en écartait. Donc ce que dit Sun Tzu est totalement différent. Lui, il est plutôt dans une logique de commandement par objectif, c'est-à-dire qu'il va donner au chef son objectif et il va lui dire « débrouillez-vous pour l'atteindre ».
Mais on va entendre un autre ensemble de citations, toujours la traduction du Père Amiot, me semble-t-il, toujours Raphaël Enthoven, l'article 3, alors Jean Lévy, lui, chapitre 3, on va peut-être être content d'entendre ce qui est dit, ça correspond assez bien à la définition de la guerre par les contemporains, la guerre doit être oblique et puis la guerre doit être mesurée.
Sun Tzu dit « Voici quelques maximes dont vous devez être pénétré avant que de vouloir forcer des villes ou gagner des batailles. Conservez les possessions et tous les droits du prince que vous servez, voilà quel doit être le premier de vos soins. Les agrandir en empiétant sur les ennemis, c'est ce que vous ne devez faire que lorsque vous y serez forcé. Veillez au repos des villes de votre propre pays, voilà ce qui doit principalement vous occuper. Troubler celui des villes ennemies, ce ne doit être que votre pis-aller. Empêcher que les hameaux et les chaumières des paysans ne souffrent le plus petit dommage, c'est ce qui mérite également votre attention. Porter le ravage et dévaster les installations agricoles de vos ennemis, c'est ce qu'une disette de tout doit seul vous faire entreprendre. Si un général agit ainsi, sa conduite ne différera pas de celle des plus vertueux personnages. Elle s'accordera avec le ciel et la terre dont les opérations tendent à la production et à la conservation des choses plutôt qu'à leur destruction.
Alors, je vais vous dire, chers auditeurs, c'est un mystère. La saisie des textes de Sun Tzu. Parce que moi, j'entends ça et je lis chapitre 2 dans la traduction de Jean Lévy, des textes un peu différents. Un général avisé s'emploie à vivre sur l'ennemi. Lorsqu'à l'issue d'un engagement, on réussit à capturer 10 chars adverses, il convient de récompenser le premier qui a réalisé l'exploit. Enfin, c'est pas aussi chrétien, aussi bénévolant que ce qu'on vient d'entendre. Alors, ce qu'on vient d'entendre circule comme étant du Sun Tzu. Mais, Yann Couder, alors c'est tout l'intérêt de vos travaux, Sun Tzu en France notamment, vous opérez un filtre et vous dites, tiens, tout ça qui circule à la radio ou sur le net, c'est pas nécessairement du Sun Tzu, même si ça passe pour être du Sun Tzu.
Alors, vous avez parfaitement raison. Et pourquoi ça circule beaucoup? Parce que, comme vous l'avez signalé, c'est une traduction de 1772 d'un jésuite, le père Amyot, qui était missionnaire en Chine.
Missionnaire, oui.
Et qui donc aujourd'hui est libre de droit. Et donc, elle est abondamment reprise, sauf que cette traduction était assez mauvaise. Et l'exemple que vous venez de diffuser, les citations, sont en totale opposition avec ce que prêchait Sun Tzu.
Donc, c'est des fake Sun Tzu.
Le père Amyot avait parfois des difficultés à traduire mot pour mot ce qui était écrit. Il rajoutait un peu de morale chrétienne et puis surtout, il ne maîtrisait pas très bien la langue et donc il devait céder. Déjà, il n'était pas sur une tradition chinoise. À l'époque, le gouvernement était mandchou, donc il travaillait sur une traduction de traduction. Et donc, diverses raisons qui font qu'il n'avait pas le texte qu'il a livré est assez imparfait. Mais comme vous le dites, la vision de Sun Tzu, c'est bien, on pourvoit aux besoins en nourriture des troupes en pillant les plaines fertiles. Et pas du tout, comme le dit le père Amyot, en apportant l'aide aux populations.
Mais voyez là, vous décrivez l'arrivée depuis une trentaine d'années de Sun Tzu en France comme une explosion. Mais c'est une bombe à fragmentation, avec des passages divers et contradictoires qui circulent sans contrôle et sans vérification. Heureusement, il n'arrive pas la même chose à Clausewitz. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de lui. 800 pages, alors là. Officier prussien, officier libre, hein, qui a vu de près les guerres napoléoniennes et qui s'en est inspiré pendant très longtemps. Clausewitz, en Occident, l'emportait de loin sur Sun Tzu. Et il y a des différences significatives, vous pouvez en marquer une ou deux.
Ah oui, alors déjà, la plus communément entendue, c'est que Sun Tzu est présenté comme le chantre de la victoire sans combat, tandis que Clausewitz, lui, incarne la guerre violente et jusqu'au boutiste. Clausewitz dit « la solution sanglante de la crise est le fils légitime de la guerre », alors que Sun Tzu a écrit plutôt, « Être victorieux dans tous les combats n'est pas le fin du fin. Soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. » Donc si on étudie plus en détail les deux systèmes, les divergences vont se multiplier. L'efficience du renseignement qui était évoquée dans l'émission de lundi.
C'est bien d'être un auditeur aussi fidèle, mais on n'a pas dit dans cette émission que 5 catégories d'espions, je crois, étaient définies dans un chapitre de Sun Tzu.
Effectivement, le dernier, alors c'est aussi une des originalités du traité de l'art de la guerre. Il parle de l'espionnage. Effectivement, il donne 5 catégories d'espions. Alors, les 5 catégories qu'il a données ont vieilli, mais l'esprit global qui est qu'il faut faire de l'espionnage à la fois sur les troupes ennemies, mais aussi au sein de l'ennemi sur comment le roi se comporte, qui sont ses conseillers, ainsi de suite. C'est quelque chose de totalement novateur et qui a été écrit il y a plus de 10 ans.
Alors l'espionnage et le renseignement, la ruse, c'est pas dans les recommandations de Clausewitz qui dit que le combat est plus important que la manœuvre. Mais pour que le combat aboutisse à une réussite, il faut une conviction politique aussi dans les masses. Qu'il pratique, c'est pas par hasard qu'il est un enfant de l'observation des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. La politique et la guerre ont à voir. A beaucoup été étudié, Clausewitz a beaucoup été étudié par Raymond Aron. Et Raymond Aron dit à l'époque de la guerre froide, c'est vraiment Clausewitz l'auteur qu'il faut lire.
Les armes nucléaires, pour la première fois, montrent la pensée profonde de Clausewitz. C'est-à-dire que tout acte militaire est un acte politique, avec pour résultat que la subordination du chef de guerre au chef d'État devient une évidence éclatante, je dirais en plaisantant, que même les militaires reconnaissent.
Dans la plupart des cas, c'est le même, c'est le chef d'État qui appuie sur le bouton quasiment.
Bien entendu, mais je veux dire qu'il n'est même pas concevable que ce soit un autre que le chef d'État. Alors ne l'oubliez pas, Moltke l'Ancien disait « c'est le chef d'État qui déclare la guerre, mais une fois la guerre déclarée, le général fait tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire. Et puis lorsque la victoire est remportée, revient le diplomate et le chef d'État. Or, cette dualité, le début et la fin appartiennent au chef d'État, mais tout le reste appartient aux militaires. Ce qui a été la doctrine officielle de tous les états-majors en Europe, c'est devenu aujourd'hui une absurdité. Et de ce fait, ce que voulait dire Clausewitz, c'est-à-dire que pendant la guerre elle-même, c'est le chef d'État qui conduit les armées, devient une vérité reconnue par tous.
Voilà, et la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc ça, c'est parfait, Clausewitz, en époque de guerre froide et de combats nucléaires possibles. Et vous vous dites, Yann Kuder, Sun Tzu, en revanche, c'est beaucoup plus fécond à l'époque des guerres asymétriques, de la guérilla, par exemple.
Oui, le... Raymond Aron a utilisé Clausewitz pour penser la guerre nucléaire. Et paradoxalement, tout autour de cette guerre nucléaire, se sont développées des guérillas pour ne pas aboutir à l'hécatombe nucléaire. Et les guérillas, elles, se sont appuyées sur les écrits de Sun Tzu en Amérique du Sud, principalement, mais aussi dans les guérillas qu'il y a pu avoir en Asie du Sud-Est. Les écrits de Sun Tzu étaient vraiment fondateurs pour définir la pensée stratégique.
À tel point, si on prend l'exemple de la Colombie que vous citez souvent, que dans les écoles de guerre colombiennes, on enseigne Sun Tzu pour déjouer les FARC.
Absolument. C'est exactement comme ça que ça se passe, puisque lorsqu'il y a eu des raids sur les FARC, on a vu qu'ils avaient des petites bibliothèques, et quand on interroge les gens, Sun Tzu faisait partie de leur corpus doctrinaire. Les FARC utilisaient beaucoup la ruse, la perfidie. Et donc, il y a eu réellement un enseignement de Sun Tzu au sein des forces armées colombiennes pour essayer de se mettre dans la tête de l'ennemi.
Et c'est comme ça qu'Ingrid Betancourt a été délivrée, parce que les forces armées colombiennes avaient maturé les idées de Sun Tzu et ont à leur tour utilisé... Ah, le stratagème et la ruse.
Ils s'en sont absolument réclamés. Hein. C'est vraiment un stratagème qui a permis la libération d'Ingrid Betancourt.
Oui. Mais stratagème et ruse, vous dites, ça m'énerve, moi, quand même, qu'on limite à ce point Sun Tzu, ces deux mots.
Oui, parce que ce n'est qu'un des aspects de conduire à la victoire. Néanmoins, le théoriser, c'est important, parce que personne avant lui ne l'avait fait. Donc... Il y a énormément de façons d'atteindre la victoire qui sont décrites par Sun Tzu. Le fait d'avoir une préparation minutieuse dans sa tête de tout ce qu'il est possible de faire, le fait de se connaître soi-même, le fait d'aller chercher le renseignement. Il décrit la façon de conduire une manœuvre. On a cité le fait de se conduire comme de l'eau, c'est-à-dire d'être en capacité d'être en réaction et de saisir toutes les opportunités que nous offrira l'adversaire. Donc non, ça ne se résume pas au
stratagème. Et puis, attendez, vous avez dit ce mot, le fait de se connaître soi-même. Je suis désolé de poser la question à un officier, mais c'est un livre de sagesse aussi quand même, L'art de la guerre.
Oui, Alors, c'est pour cela que l'on trouve Sun Tzu aujourd'hui adapté à de multiples autres domaines que ceux de la guerre, parce que la façon dont il perçoit la conduite de la guerre est extrêmement facilement transposable à beaucoup d'autres domaines.
Voilà, au carrefour de la littérature, de la science politique, de la philosophie, Sun Tzu, l'art de la guerre. Alors, vos livres, Yann Couder, on en retrouve la trace sur notre site qui renvoie à votre blog Sun Tzu France. L'émission a été préparée par Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Clément Vuillet. Et chez vous, Mathieu Vidard, un autoportrait aujourd'hui ?
Oh, arrêtez avec les autoportraits.
Bah, si le thème, c'est l'élégance.
Oui, je sais bien, oui. La physique de l'élégance, pour parler des craquelures du visage de Mona Lisa ou de la structure de la pomme de pin, voilà.
Et des rides. Il est 14h, vous écoutez France Inter.